17h35 à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour avec tout ce qui se passe dans le monde, la guerre tarifaire qui angoisse bien du monde, on va se le dire. Les grands dignitaires qui se rencontrent sur nos terres présentement. Et un nouveau premier ministre qui sera officialisé à la fin de la semaine.
Oui, la rencontre des bras droits qui se fait dans Charlevoix en prévision du G7 qui lui va se tenir au mois de juin. Puis effectivement, assermentation de Mark Carney et de son cabinet qui va se faire vendredi.
Comment il a passé sa semaine au niveau des émotions? J'ai très, très
hâte. Plus rien, voyons.
J'ai très, très hâte de l'entendre. Penses-tu qu'il est engourdi à tout ça?
Oui.
Francis Gosselin, docteur en économie, comment ça va?
Je suis rendu que j'ai comme des acouphènes, en fait, permanents, là, quand on parle de Trump. Non, je blague, mais non, ça va. Écoute, le taux directeur a baissé ce matin. C'est quand même déjà une heureuse nouvelle. Petit répit dans cette vague de mauvaises nouvelles. Mm-hmm. Mais ouais, c'est assez intense, là. C'est pas juste cette semaine, ça fait depuis, la fin janvier, là, tu sais, qu'il avait annoncé initialement les tarifs là, début février, là, ça n'a vraiment pas lâché depuis. Ça fait presque 6 semaines non-stop que je dors presque plus.
Francis, c'était du côté de l'Europe. Puis, tu sais, nous autres, mine de rien, on est du côté du Canada. On soucie beaucoup de notre actualité à nous. Comment tout ça est perçu en Europe? Parce qu'eux autres aussi, il y a des histoires de tarifs qui se font de leur côté, mais ils voient aussi ce qui se déroule du côté de l'Amérique du Nord.
Ouais, non, mais je viens de passer une semaine, là, je viens de revenir de Paris, ouais, puis c'est quand même fou, là, d'habitude, moi, là-bas, avec mes clients, je parle pas de politique, là, tu sais, c'est comme on fait de la business, puis ça, tout le monde me parlait de Donald Trump, j'ai jamais vu ça, puis les gens sont comme solidaires et inquiets pour nous, là, tu sais, vraiment, là, puis... tu sais, j'ai des amis en France qui votent pour Macron, mm-hmm. puis même à la limite Le Pen. Là,
sur tout le spectre politique.
Tout le spectre, puis des mélanchonistes, là, puis ça, mais tout le monde haït Donald Trump. Là, tout le spectre politique là, trouve ça complètement fou ce qui arrive en ce moment, puis vraiment impossible à suivre. Fait que, tu sais, c'est assez spécial. Puis là, oui, aujourd'hui, là, vous l'avez peut-être vu, là, l'Europe, évidemment, qui est aussi sujette là, à ces tarifs sur l'aluminium et l'acier, ils ont annoncé une première salve de contre-tarifs à leur tour. Puis, d'une certaine façon, ça me fait comme un peu plaisir là, d'avoir vu ça, parce que jusqu'ici, bon, le Canada, on dit souvent, c'est une petite économie, on est 40 millions d'habitants, on est très dépendant des États-Unis pour nos imports et nos exports. L'Europe, c'est pas la même affaire, mm-hmm. là, tu sais, c'est comme 400 millions de personnes, c'est plus gros que les États-Unis. Et puis, tu sais, il y a des biens là, comme les voitures de luxe, puis, tu sais, des biens finis, les ordinateurs, les machines-outils là, qui sont faites en Allemagne et tout. Fait que, tu sais, c'est sûr que... Ça va faire très, très mal là, aux manufacturiers américains. Fait que j'espère que l'impact de ces contre-tarifs-là européens vont aussi pencher dans la balance puis éventuellement mettre un terme là, à tout ce délire.
Francis, comment t'as trouvé la journée du bluff quand le premier ministre de l'Ontario s'est levé puis qu'il a dit « Ouais, ben moi, je vais tarifer l'électricité. »
Dans trois états, let's go!
Puis là, Trump servirait de bord puis il a dit « Ouais, ben moi, je vais doubler mes tarifs. » Est-ce que t'as eu peur soit que ça explose ou tu t'es dit « Bon, ben, on va régler les affaires vite. » Comment t'as vécu cette journée-là?
Je suis un peu déçu, honnêtement. Là.
Ah oui?
Ouais, puis j'espérais que Doug Ford y tienne, là, tu sais, qu'il se rende là, un peu. Puis d'une certaine façon, là, c'est là où, à un moment donné, tout ça, comme tu le dis, Denis, c'est un bluff. C'est-à-dire, si, mettons, Donald Trump imposait des tarifs de 50%, ou tu sais, n'importe quel pourcentage là, rendu là sur l'aluminium et l'acier, je veux dire, le Canada fournit la majorité de l'aluminium qui est utilisé aux États-Unis. Là. Tu sais, ils ont pas de capacité, ils ont une très petite capacité locale de production. Fait que, ultimement, je veux dire, ça arrêterait net la production de voitures, ça arrêterait net la production de laveurs-sécheurs. Comme il y aurait des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui, immédiatement, là, ou comme dans la semaine, seraient mises à pied là, par des tarifs de 50% sur l'aluminium. Évidemment, ça nous ferait très mal. Là, ça, il faudrait comme stocker l'aluminium dans les cours du Saguenay ou je sais pas trop quoi, ou l'envoyer ailleurs, mais je veux dire. De leur côté, ce serait dramatique et j'espérais que M. Ford pousse un petit peu le bouchon. Éventuellement, il a même parlé de couper l'électricité, hein, ce qui serait quand même...
Je voulais justement aller là. Cet impact-là aurait été gigantesque. Puis j'ai l'impression que c'est quand ça a été dit du côté des médias américains que soudainement, Maison-Blanche, on a fait « Oups, on pourrait être dans marde. » Oui ou non?
J'ai l'impression que derrière toutes ces stratégies-là, on a l'espoir que M. Trump va finalement entendre raison.
qui a besoin du Canada, finalement, contrairement à ce qu'il dit.
Qu'on veut pas comme commettre l'irréparable. Fait que c'est un peu ça, évidemment, là, quand tu disais le bluff, là, Denis, c'est on veut pas se rendre là, au point où il y a des gens qui meurent de froid au Michigan, là, qu'il y aurait des morts sur la conscience, parce que c'est de ça qu'on parle. Là, tu coupes l'électricité, là, on l'a vu pendant la crise du verglas, peu importe, là, 2 jours, 3 jours, le monde, ils savent plus quoi faire de leur vie, là, ils se mettent à penser de changer de pays. Fait que on veut pas se rendre nécessairement là, mais j'avoue que ça a été un peu... C'est autant en blâme Donald Trump d'être in and out puis de changer d'avis tout le temps. J'ai trouvé que M. Ford s'était laissé amadouer pas mal vite. Pas par M. Trump. Hein. Il a parlé à Howard Lutnick, qui est le secrétaire d'État au commerce.
Qui a pas l'air au courant de tout, là.
Je sais pas si vous avez vu l'excellent texte dans le Wall Street Journal aujourd'hui qui se demande, l'équipe éditoriale du Wall Street Journal, c'est pas signé. Il se demande si Howard Lutnick comprend quelque chose au commerce. C'est quand même assez drôle.
On dirait que tout le monde est dans la même position, là, à savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de Trump puis jusqu'où il veut aller dans ses patentes.
On a l'impression que
le Wall Street Journal, là, c'est pas la petite feuille de Hochelaga Maisonneuve gauchiste. Là, c'est quand même un grand journal plutôt à droite, plutôt conservateur économiquement. Ils sont, eux, sur une croisade là, contre l'équipe de Trump et ses histoires de tarifs et qu'ils ont appelé les tarifs les plus stupides de l'histoire, là, surtout en ce qui concerne le Canada. Donc, pour l'instant, ouais, M. Ford est revenu sur sa parole, mais ça s'organise plutôt au niveau fédéral là, actuellement, la réplique.
Mais dans la mouvance actuelle, on a l'impression que le premier ministre du Québec, François Legault, aurait des arguments lui aussi, puis on dirait que c'est placé. Il y en a qui vont dire sur la voie d'évitement, il y en a qui vont dire sur la voie de la prudence. Est-ce que c'est la bonne chose à faire actuellement ou on aurait dû embarquer avec l'Ontario pour se lancer des menaces, d'après toi?
C'est, honnêtement, l'histoire le dira. Là, c'est là où, encore une fois, on n'a jamais vu ça. Fait que, est-ce que d'adopter une posture d'homme fort, Doug Ford, parler fort, faire des petits slogans de casquette, là, s'abaisser dans une certaine manière, ça peut être une très, très bonne tactique. Là, c'est pas négatif quand je dis ça. Mais ultimement, ça peut aussi faire en sorte que la mayonnaise monte, puis que tout le monde se fâche de plus en plus, puis qu'on se coupe complètement. Puis comme je disais, il y a une notion d'irréparable. C'est qu'à un moment donné, les Américains, actuellement, là, on sent qu'ils sont plutôt favorables au Canada dans tout ça. Là. La majorité des Américains trouvent ça insensé. Mais si on se met à faire des choses comme couper l'électricité, comme créer des dommages irréparables à certaines industries, à certaines régions, à certaines villes, il pourrait changer d'avis puis commencer à nous haïr. Puis ça, évidemment, on veut pas jouer toutes ces cartes-là trop rapidement. On doit miser sur ce capital de sympathie. L'objectif, je pense, ultimement, c'est de faire en sorte que M. Trump, par la pression populaire interne aux États-Unis, finisse par entendre raison. Puis c'est peut-être là où il y a notre meilleure carte. Là.
Je sais, Francis, que Donald Trump dit beaucoup de niaiseries en l'espace de quelques jours, mais moi, il y en a une où je suis comme tombé en bas de ma chaise. Puis il y a des chiffres qui se promènent sur Internet et ainsi de suite. Tu sais, quand il a dit « le Canada abuse ». Des tarifs, j'ai fait quoi? C'est lui qui a parti de ce guerre-là, puis il ose dire qu'on abuse des tarifs. Puis là, ben, tu vois des chiffres passer, tu te poses des questions. Est-ce que le Canada abuse des tarifs?
Non, honnêtement, c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a pas de fondement vraiment là, à tout ça. Mais en fait, il n'y a pas de fondement à. Tu sais, juste rappeler aux auditeurs, là, ce qui permet à Donald Trump de faire tout ça sans consulter le Congrès puis sans qu'il y ait aucune forme de procédure démocratique, c'est qu'il a invoqué un état d'urgence.
Oui.
Et la justification de cet état d'urgence, c'était le fentanyl et l'immigration massive provenant du Canada, ce qui a été maintes fois démontré comme étant de la pure bullshit. Et j'ai lisé un article très intéressant cette semaine qui rappelait à juste titre que ce qui entre aux États-Unis, c'est la responsabilité des États-Unis. Si ta frontière n'est pas protégée, si tes gars à ta customs office fouillent pas les autos, c'est pas la faute du Canada. Je veux dire, il n'y a aucun Canadien qui travaille de l'autre bord du pont là, à Toronto ou à la colle, c'est les Américains. Fait qu'il nous remet ça sur le dos. C'est incompréhensible. Les quantités sont infimes dans le cas du fentanyl et des immigrants. Et c'est ce qui lui permet de faire tout ça, tout ce délire est justifié par un état d'urgence.
Incroyable.
Et entre nous, il n'y a pas d'état d'urgence actuellement ni au Canada. La seule urgence qu'il y a maintenant, c'est Donald Trump qui l'a créé en foutant le bordel. Mais il n'y a aucun justificatif vraiment à tout ça.
Francis, en terminant, je veux t'entendre sur l'aventure Nordvolt qui s'est terminée vraisemblablement dans les dernières heures. Est-ce qu'on a juste perdu 270 millions de bâtons?
Ouais, puis écoute, encore une fois, là, le terrain est encore là, comme le dirait Luc Poirier.
Ouais, ben oui, hein?
Non, mais on pourrait le revendre, le terrain. Il y a une valeur qui a été mise dessus. Il y a peut-être une manière de récupérer des billes.
Tu crois-tu un repreneur? Parce que là, le gouvernement semblait dire aujourd'hui, ben, on a peut-être toujours la chance qu'il y ait un repreneur qui décide de reprendre Nordvolt, là.
Ou de reprendre des parties de Nordvolt. Ça peut être ça aussi. T'sais, c'est clair que l'idée n'était pas mauvaise derrière Nordvolt, mais essayer de faire 3, 4, 5 giga-usines dans des pays différents sans avoir nécessairement la capacité de faire des projets de cette ampleur-là. Puis là, ben, ce qu'on a annoncé, en fait, ce matin, hier, mm-hmm. je ne sais plus les heures,
c'était
mais
très tôt ce matin,
c'est la filiale suédoise.
La société fond, mère.
Là, qui est la maison mère, mm-hmm. ouais, effectivement, qui a fait faillite. Tout ça est géré séparément en fonction des juridictions. T'sais, aux États-Unis, c'est Chapter 11. Ici, on a la loi sur la faillite. Les Suédois, je ne connais pas du tout leur système là, pour protéger les créanciers. Mais tu sais, souvent, on peut renégocier la dette, renégocier l'actionnariat, puis possiblement repartir là, avec un moins grand poids. Ouais.
Est-ce qu'une filiale a déjà survécu à la faillite d'une société mère dans les histoires de ce genre-là?
Oui, oui, il y en a plusieurs. Là. Ça, tu savais, je ne sais pas si tu savais en fait, Véro, mais Hertz, c'était une filiale de Ford.
Ah,
à un moment
vrai?
Donné. Ford s'était placé sous la protection de la Fed dans les années 80, puis Hertz a comme spin-off, puis c'est devenu...
Okay. Voler de ses propres ailes.
À un moment donné, plus gros que Ford, là, ça s'est rééquilibré depuis. Il y en a plusieurs là, dans le domaine des jouets, là, j'oublie les marques, là, mais Marvel, okay. je pense, avait les comics, était la maison mère, mais il y avait des sociétés en dessous qui faisaient comme plus d'argent que les comics. Bref, finalement, ça a comme été splitté en deux. Mais c'est ça. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est... souvent, c'est qu'on fait faillite, puis là, on spin-off là, en bon français, c'est-à-dire qu'on prend une partie de la business là, qui, elle, est profitable, puis on la sépare du reste, puis c'est ça qui survit. Là, t'sais, fait que ça, il y en a plusieurs. Jaguar, à un moment donné, la compagnie de voitures, eux, je pense que c'est leur troisième faillite. Là.
Oh, OK.
ils appartenaient à un conglomérat qui a fait faillite, ils ont été spin-off, ils ont été rachetés par Ford. Quand il y a eu la crise de 2008, je pense que ça a été ressorti. Là, ils font plus de voitures, Jaguar. Je sais pas si vous avez suivi l'aventure. En ce moment, ils ont comme arrêté de faire des autos, là,
okay.
complètement. Ils sont comme dans un mode, on va concevoir l'auto du futur. Puis là, ils vont comme repartir là, un nouveau concept, là, je pense, en 2026. Mais en tout cas, c'est une marque comme ça qui est comme le phénix là, qui est rené de ses cendres plusieurs fois dans l'histoire.
C'est une bonne idée de faire l'auto du futur, mais personnellement, moi, je l'ai vu hier en avant de la Maison-Blanche, puis elle est en tabarnache.
Ouais, en tout cas, je ferai pas de mauvaise blague, mais il y avait comme une j'ai vu une photo sur Reddit aujourd'hui d'une capture d'écran de Donald Trump puis Elon Musk dans le Cybertruck, puis c'était une capture d'écran de Pornhub, puis il y avait comme un descriptif un petit peu trash là, en dessous de ça, donc... bref, ça va pas bien finir. Ceci dit, drôlement, ça a fait augmenter l'action de Tesla
ben
aujourd'hui.
Ben oui, ça a marché.
Bon, ça marche.
Donc, je sais pas si... Mais tu sais, je vais vous dire entre nous là, que des gens de chroniqueurs et de la grosse droite, là, les Jeff Filion américains là, qui haïssent les chars électriques. Là,
ça, c'est drôle. Hein?
Ils se retrouvent à voir ça. Je sais pas comment...
c'est le paradoxe.
Qui a explosé dans leur cerveau hier. C'est quand même très, très drôle finalement comme tournure des événements.
Tout le monde est en train de virer fou. Hey Francis, merci beaucoup.
Hey Francis.
Bon retour, salut. Francis Gosselin, docteur en économie pour nous jaser, bien évidemment, de tout ce qui se passe cette semaine. Avec les tarifs, ça va être une année haute en rebondissement. Puis peut-être rappeler les derniers détails. On va avoir un premier ministre en fonction ce vendredi.
Oui, fait qu'il va pouvoir déclencher des élections rapidement s'il le souhaite, mais c'est là qu'on s'en va.
Yes! On écoute Shine Down avec Second Chance, 6h-10. S'il y a quelque chose sur les routes, 88 971 1021.